Les séminaires du Collège de France.
Sur quel fil, si vous pouvez le mettre.
Très bien, je vous en prie.
Très bien. Donc vous voilà équipé, on peut y aller. Donc aujourd'hui, pour ce septième exposé dans le cadre de du séminaire après le cours, on a le plaisir d'accueillir Christine Fünschilling, qui est ingénieure de recherche en dynamique ferroviaire à la SNCF. Ses travaux portent sur le couplage entre la simulation et l'analyse des données pour l'optimisation de diverses opérations ferroviaires, donc à la SNCF. Elle travaille notamment sur l'homologation par le calcul, la surveillance du système par des capteurs embarqués, l'optimisation de trajectoires de vitesse pour minimiser l'énergie consommée. Et pour les clients de la SNCF, il s'agit de limiter les éventuels dérangements, des retards découlant de défauts liés au processus d'homologation, de surveillance et de maintenance et d'exploitation du matériel roulant et de l'infrastructure pour le groupe. Une des difficultés majeures concerne le traitement des incertitudes dans le cadre des garanties, l'homologation, la garantie de sécurité. Et donc dans ce cadre-là, le traitement des incertitudes, Christine Fünschilling est dans la société de statistiques et dans le groupe spécialisé fiabilité des incertitudes. Donc le titre de son exposé aujourd'hui, c'est « Mesures embarquées ». Et modèle physique, un enrichissement réciproque en dynamique ferroviaire.
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier de nous avoir invités aujourd'hui à présenter quelques problématiques ferroviaires dans ce beau lieu emblématique. Et aujourd'hui, en effet, je vais montrer quelques travaux que nous avons réalisés pour optimiser différentes opérations ferroviaires en couplant deux approches. D'une part, l'exploitation de mesures issues de capteurs embarqués et d'autre part, la modélisation physique, la modélisation mécanique. Ce sont des travaux qui ont été menés en collaboration avec les professeurs Soise et Perrin sur les aspects traitement de la donnée, sur les aspects quantification des incertitudes et plus avec les professeurs Aubry et Duhamel sur les aspects modélisation mécanique. Et donc, je les remercie aujourd'hui chaleureusement pour cette collaboration au long cours. Je voudrais aussi remercier Malek, Romain, Zunke, David, Nicolas et Julien pour leurs travaux de thèse qui ont largement contribué à ces recherches. Donc avant de commencer, je vais vous présenter le système qu'on va étudier. Donc on va étudier le système ferroviaire, le système train-voie. Et ce système dynamique, il a de nombreuses interfaces physiques. Donc interface entre la voie, la roue et le rail, entre le pantographe et la caténaire, des interfaces fonctionnelles aussi. Il présente de très fortes non-linéarités. Donc, typiquement, si on revient sur le contact ici entre la roue et le rail, on a une géométrie de contact qui est non-linéaire, on a une loi de contact qui est non-linéaire, on a aussi des suspensions qui sont non-linéaires. Bref, on a tout un tas d'éléments qui sont non-linéaires dans ce train, des butées par exemple. Et puis, les caractéristiques de ce système et les chargements, ils sont parfois mal connus et ils sont parfois aléatoires. Si je reviens sur cette adhérence, de nouveau, cette adhérence, elle va changer le long du profil du fait des graissages. Elle va changer le long de la voie du fait du graissage aussi, mais elle va aussi changer avec la météo. Si j'ai un temps sec ou si j'ai un temps humide ou si j'ai la neige, mon adhérence ne va pas être la même. Donc on a des problèmes, des coefficients qui sont mal connus et aléatoires. Et puis, les entrées et les sorties de mon système, elles sont fonctionnelles. Je vais regarder des géométries, des accélérations, des efforts injectés à la voie ou matériel roulant. Et donc, du coup, on a cette complexité de la dimension. Et puis, c'est un système qui est extrêmement sûr. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement des situations extrêmes pour faire de la garantie, pour faire de l'analyse de risque. Alors, ce système, il a été construit de manière intégrée. Donc, ça veut dire qu'on a construit des véhicules complètement adaptés à la voie ou on a adapté la voie au véhicule. Et on a construit ce système essentiellement sur l'observation, sur le retour sur expérience. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai représenté ce système par des morceaux de puzzle qui sont parfaitement imbriqués. Puisqu'encore une fois, on l'a construit, ce système, de manière intégrée. Et on a des véhicules parfaitement adaptés à des voies et des voies parfaitement adaptées aux véhicules. Et ce système, aujourd'hui, il évolue beaucoup plus vite qu'avant. Il évolue d'une part parce qu'on a maintenant une séparation entre le gestionnaire de l'infrastructure, l'opérateur, le constructeur. Et du coup, c'est un petit peu moins aisé de partager les connaissances et d'essayer de trouver un optimum global pour le système. On a chacun qui a ses propres intérêts. On a des investissements qui sont clairement en retrait, que ce soit pour la maintenance et le renouvellement. Donc tout ça fait que ce système, il évolue un petit peu plus vite. Et puis, on a une diversification du trafic, notamment liée à l'ouverture à la concurrence ou aussi à la conception de nouveaux trains qui sont très innovants, par exemple des tout petits trains avec des suspensions très innovantes pour les petites lignes de desserte fine. Et ces véhicules, j'ai mis véhicules étrangers, ils ne sont pas moins performants, mais ils n'ont pas été conçus exactement pour notre réseau. Et finalement, si on regarde par exemple entre la France et l'Allemagne, les raideurs de la voie, elles sont un petit peu différentes, les inclinaisons des rails sont un petit peu différentes, et du coup, de manière complètement adaptée, les trains sont des raideurs différentes et des formes de roues différentes. Du coup, quand on voit un train qui passe de l'un à l'autre, on a un système qui est différent, on a des sollicitations de l'infrastructure qui sont différentes, des sollicitations des trains qui sont différents, et du coup, on a un système qui va évoluer un petit peu plus vite. Et c'est pour ça que je l'ai représenté avec un morceau un petit peu différent. Et puis, on a les sollicitations qui changent parce qu'on a le trafic qui augmente, parce qu'on a les vitesses de circulation qui augmentent. Et puis, on a aussi des sollicitations qui changent. On a plus de sécheresse, plus de grosses pluies. Et du coup, ça peut perturber nos ouvrages en terre, par exemple. Et du coup, pour essayer d'adapter, d'accompagner cette évolution, on a de nouvelles attentes vis-à-vis de la mesure. On aimerait surveiller plus souvent, plus proche du système réel et bien sûr si on peut à coût réduit. Et du coup pour ça on essaye de progresser dans la collecte et l'exploitation des mesures indirectes, des mesures opportunes. Typiquement on met des capteurs dans un train commercial et on essaie d'analyser ces sorties. Ou bien j'utilise la fibre optique que j'utilise normalement pour les télécoms, on injecte des ondes acoustiques et puis j'essaie de surveiller mes sols comme ça. Alors ça a plusieurs avantages. D'abord, ça nous permet de faire des surveillances qui sont beaucoup plus fréquentes, parfois même si elles sont moins précises, et puis de faire un suivi qui est complètement transparent. On n'a pas besoin de matériel roulant, on n'a pas besoin de sillons, on n'a pas besoin de personnel. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que mes sollicitations, elles sont très représentatives. Je fais des mesures avec un train qui est très chargé, quand il fait très chaud, quand il fait très froid, quand il est léger. Du coup, on a beaucoup plus de sollicitations et qui sont beaucoup plus représentatives que ce qu'on a quand on fait de la surveillance spécifique avec un train qui est spécifique. On a aussi de nouvelles attentes vis-à-vis de la simulation. Pendant longtemps, la simulation, on l'utilisait uniquement de manière descriptive, qualitative. On essayait de comprendre les phénomènes physiques qui étaient en jeu. Aujourd'hui, la simulation, on aimerait faire la prédiction avant, donc on veut qu'elle soit quantitative. Avec cette simulation, on essaye de simuler ce qui est difficile à être expérimenté. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à faire de la survitesse, de faire des essais de déraillement, de faire des essais de crash. C'est des choses qui coûtent très cher et qu'on essaye de limiter au maximum. On essaie aussi de simuler pour optimiser le système. Et surtout, l'optimiser en essayant d'anticiper son évolution, qu'on a vu, elle est plus rapide. Donc, essayer d'adapter les règles de conception, les règles de surveillance et de maintenance et d'exploitation pour que le système reste tout aussi sûr. Et puis, on essaie aussi, bien sûr, de maîtriser toutes les émissions, qu'elles soient vibratoires, acoustiques et aussi la réduction de l'énergie consommée. Et du coup, pour répondre à toutes ces problématiques, un des enjeux clés, c'est vraiment essayer de maîtriser la complexité sans perdre trop d'informations pertinentes. Et du coup, une des réponses pour essayer de maîtriser cette complexité, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on l'a pris, essayer d'enrichir réciproquement la mesure et la simulation. Donc utiliser la mesure pour rendre la simulation plus représentative, plus réaliste, donc essayer d'introduire le maximum de physique qu'on observe, de calibrer les paramètres de nos modèles, mais aussi d'essayer d'utiliser la simulation pour enrichir la mesure. Donc essayer d'interpoler les observations qu'on a, éventuellement les extrapoler si on peut, essayer d'utiliser la simulation pour exploiter ces fameuses réponses du système global pour essayer de comprendre ce qu'elles contiennent. Et puis aussi, si on peut, essayer d'utiliser à la fois la simulation et la mesure pour optimiser le système et contrôler ce système en temps réel. Alors aujourd'hui, je vais essentiellement parler des deux éléments du milieu, donc la simulation pour enrichir la mesure et donc les observations et essayer de comprendre ces mesures indirectes. Donc le plan de ma présentation sera le suivant. Je vais d'abord présenter rapidement la simulation de dynamique ferroviaire qu'on utilise. Ensuite, je vais montrer des exemples de simulation pour l'interpolation et puis deux exemples de simulation pour extraire les informations des mesures sur le système, la surveillance de la géométrie de la voie et le télédiagnostic de certaines suspensions. Alors, notre système, donc là, je vais essentiellement regarder un TGV qui a deux motrices, 8 voitures, environ 13 bogies, 26 essieux, 52 roues, des centaines d'éléments de suspension, des milliers de pièces mécaniques, de pantographes, et on va le modéliser de manière très simple. On va le modéliser avec des corps rigides. Donc, on va avoir un corps rigide pour chacune des caisses, un corps rigide pour chacun de ces bogies, donc les châssis qui retiennent deux essieux, et un corps rigide pour chacun des essieux. Et je vais résoudre donc les équations Newton et Euler sur ce système qui a à peu près du coup 50 fois 6 degrés de liberté. Et puis j'ai à peu près 500 paramètres pour représenter ce système, paramètres physiques qu'il faut qu'on spécifie d'une manière ou d'une autre. Et je les appellerai W. Et après, on a les excitations de ce train. Alors les excitations, d'abord, il y a le vent. Donc le vent, on va utiliser des cartes météo, donc des prévisions données par Météo France à une heure, et on va les projeter, donc c'est ce que j'ai en gris ici, on va projeter les cartes de vent sur la voie pour avoir le vent que va avoir le train. Et puis, les efforts, ils vont être injectés au niveau du contact entre la roue et le rail, et du coup, la forme de ce rail qui s'use, la forme de cette roue qui s'use, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, on va travailler avec tout un tas de modèles de plus ou moins précis de ce contact. Et ensuite, et c'est là-dessus dont je vais parler beaucoup de cet aspect-là, c'est la géométrie de la voie. Donc ici, on a une photo d'un défaut de géométrie qui a été mesuré sur une ligne à grande vitesse. Donc on voit qu'effectivement, les rails ne sont plus droits. Et ces défauts de la géométrie, on les classe habituellement en quatre types de défauts. On a le défaut de nivellement, donc des bosses, des creux. On a le défaut de gauche, un rail qui se lève par rapport à l'autre, les défauts de dressage, les défauts dans le plan horizontal, les deux rails se déplacent, et puis les défauts de surécartement ou de sous-écartement. Donc voilà les quatre types de défauts. C'est des défauts qu'on va mesurer, qui sont sur 3 à 150 mètres à peu près, et qui sont de l'ordre du décimètre. Donc c'est des choses très petites qu'on va essayer de capter. Et encore une fois, ces défauts de la géométrie, ils jouent un rôle central sur le confort des passagers, sur la sécurité des circulations et sur le comportement, la stabilité du train. Et puis, ce train, il y a un conducteur dans le train, ou pas de conducteur d'ailleurs parfois, et donc il y a une commande qui vient indiquer une commande au train et qui va donner une indication sur la vitesse longitudinale du train. Alors la fonction commande, elle est indexée par le temps, elle a des valeurs qui vont entre moins 1 et 1, moins 1 je freine au maximum, plus 1 j'accélère au maximum, et on voit que cette commande, elle est assez, il y a des sauts, donc elle est assez irrégulière, et donc ça ne va pas forcément être facile à prendre en compte, et surtout il va y avoir un impact important sur mes deux autres dynamiques, latérale et verticale. Et donc ici, on a représenté un schéma de la modélisation, donc on a d'abord un modèle dynamique dont j'ai déjà parlé, qui a des paramètres W, une commande U, des excitations, et qui nous donne accès à la réponse dynamique qu'on va étudier. Et puis, on a, en post-traitement de ce modèle dynamique, un autre modèle, un modèle énergétique, qui a lui aussi des paramètres d'entrée et qui nous donne accès à la puissance électrique. Donc maintenant qu'on a un petit peu présenté ces aspects-là, je vais montrer comment on peut utiliser cette simulation pour essayer d'interpoler un nombre d'observations qu'on a eues par des essais, par des expériences. Donc je vais essentiellement maintenant m'intéresser à la partie dynamique de ce modèle et je vais essayer de montrer comment, avec ce modèle, on va essayer d'enrichir les informations données par la mesure, notamment pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe à la limite de mon système que j'ai du mal à expérimenter. Une application qui a été utilisée, c'est vraiment l'homologation qui, pendant longtemps, était essentiellement expérimentale. Donc, pour avoir un plus grand ensemble de réponses dynamiques, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr jouer sur les paramètres. Donc les paramètres, c'est un vecteur. C'est assez facile de perturber, donc de changer ces paramètres et de propager cette incertitude dans le modèle dynamique. Par contre, l'excitation, on a vu cette géométrie de la voie ou ces contacts, ils sont plus complexes et essayer de perturber cette mesure de la géométrie, c'est moins aisé. Donc du coup, les informations qu'on a, ce sont des mesures régulières de la géométrie de la voie. Donc régulièrement, toutes les lignes à grande vitesse sont surveillées par des trains, des engins spéciaux qui viennent par des mesures optiques surveiller l'état de la voie. Donc l'objectif qu'on a, c'est à l'aide de ces mesures, comment est-ce qu'on peut caractériser l'ensemble du système sur toute sa durée de vie. Et donc, il nous faut un générateur de conditions de voie qui sont réalistes et qui sont représentatives de mon système. Alors, donc, je vais repartir sur ces quatre types de défauts. Et ici, j'ai représenté les quatre types de défauts et sur la courbure. Donc, la voie, elle a en plus un tracé. Donc, on a des courbes, des alignements, des entrées et des sorties de courbes qui ont une courbure linéaire. On a aussi des pentes, des rampes avec l'altitude. Et on a, du coup, ces petits défauts qui apparaissent, mais qui sont parfois là dès la construction de la voie et qui sont le nivellement, le dressage et puis, de plus petite amplitude, le gauche et l'écartement. Et ces défauts, ils sont complètement dépendants de la courbure. Donc on a des défauts qui sont plus gros quand je suis en entrée-sortie de courbe ou en alignement quand courbe. Quand je suis en courbe, les défauts sont d'amplitude plus petite. Et du coup, on a fait le choix de modéliser ces quatre défauts, donc ces quatre fonctions, par un processus aléatoire qui est à valeur vectorielle. Je vais bien considérer les quatre défauts en même temps et qui est indexé par le temps, par l'abscisse curvée. Alors du coup, ce champ, il est d'une part non stationnaire, puisqu'on l'a dit, hein, les propriétés, elles dépendent de la courbure, et cette courbure, bah, elle change dans la voie. Et puis, ces défauts, ils sont ce champ, il est aussi non gaussien. On observe notamment que les codistributions sont plus lourdes, donc les défauts d'amplitude plus grandes sont plus fréquents par rapport à une loi gaussienne. Et puis, les dépendances entre les défauts sont extrêmement complexes. Ces défauts, ils viennent vraiment de l'interaction entre la voie et le véhicule. Si on regarde les spectres, on retrouve les modes propres du train dans la géométrie de la voie. Et donc, il va falloir qu'on arrive à modéliser les dépendances qu'on a entre ces différents défauts. Si j'ai un défaut latéral, je vais aussi avoir un défaut vertical. Et puis, il y a tout un tas d'effets de retard. Mon train, si j'ai un petit défaut, mon train va réagir ici, et puis, du coup, il va réagir aussi plus loin. Donc, voilà. Donc, les dépendances sont extrêmement complexes. Et du coup, on a fait le choix de mettre en place une stratégie d'inférence qui est en trois étapes. D'abord, on va essayer de découper les données en tronçons de voie. Alors, on a choisi des tronçons de voie suffisamment grands pour qu'on puisse capter la dynamique du train. Un train, il fait déjà 200 mètres, donc il faut qu'on prenne plusieurs centaines de mètres pour pouvoir capter la dynamique du train. Et puis, on a fait des groupes de caractéristiques statistiques comparables. Donc, on a fait des groupes pour l'alignement, pour la courbe établie, pour les entrées et pour les sorties de courbe. Puis, la deuxième étape, ça a été une première réduction de la dimension statistique en faisant une projection spatiale en utilisant du Karen Love. Et puis, enfin, on a inféré la loi statistique des coefficients de projection par un chaos polynomial en inverse. Alors, voici ici mon premier découpage. Donc ici, j'ai toutes les portions qui sont en zone de courbure nulle. Donc ici, j'ai, pas toutes, hein, mais j'ai une partie des portions des tronçons qui sont en alignement. Ici, j'ai une partie des tronçons qui sont en pleine courbe. Hein. Ici, j'ai la courbure qui est constante, mais non nulle. Ici, j'ai toutes les sorties de courbe. Et ici, j'ai toutes les entrées de courbe. Et une fois qu'on a construit notre ensemble de tronçons, on calcule l'estimateur empirique de la matrice de covariance ici. Et si je regarde la partie diagonale de cette matrice, je vois que on a plus d'énergie sur ces tracés noirs et rouges qui sont les défauts de nivellement ou de dressage. Et on voit que la corrélation spéciale, elle est longue. Encore une fois, si j'ai un petit défaut de rail, un tout petit défaut de quelques millimètres, le train va réagir et très vite, je vais avoir imprimé, comme quand on roule dans le désert, des oscillations sur la voie et il se passe exactement pareil sur le latéral. Par contre, si j'ai un défaut d'écartement, la réaction dynamique elle est plus faible et du coup, j'ai une longueur de corrélation qui est beaucoup plus faible. Et on voit aussi tout de suite que ces défauts d'écartement, on va avoir plus de mal à les capter dynamiquement. Voilà. Donc, deuxième étape, je fais une projection sur une base réduite. Donc, j'ai ma matrice de covariance empirique et je vais chercher les vecteurs propres, Km, associés aux valeurs propres lambda m de cette matrice de covariance. Et donc, j'ai une base de m vecteurs. Donc, ici, j'ai nu réalisation et avec un nu qui est grand, mais pas non plus gigantesque, puisque il faut pouvoir les supposer indépendants. Et puis, pour caractériser l'erreur que j'ai entre la reconstruction et, euh, et, euh, et, et la mesure initiale, je vais regarder l'erreur leave one out, donc je résous nu problème aux valeurs propres sur nu moins 1 mesure, et puis je compare, je calcule l'erreur quadratique par rapport à cette dernière mesure, et je tourne pour calculer cette erreur, puisque finalement, ma base, elle n'est pas non plus très grande, du coup, c'est comme ça qu'on calcule les erreurs. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la réduction, elle est très forte au début, puis elle se tasse. Donc, les 50 premiers modes sont très intéressants. Après, la réduction, elle se tasse. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les erreurs de projection sont assez différentes sur ces quatre types de défauts. On voit que les défauts bleus et noirs, donc les défauts de dressage et nivellement, sont plutôt mieux reconstruits que les autres défauts. Et ici, si j'ai les erreurs pour 500 modes ou sur 2000 modes, donc après on s'intéressera à 2000 modes, on a fait pas mal de choses sur 500 modes, on voit que on a certes des erreurs qui sont relativement petites pour les deux premiers défauts, mais on a ici le défaut de gauche qui est mal reconstruit. Or, ce défaut de gauche, c'est lui qui est le plus embêtant au niveau de la stabilité. Si j'ai un défaut de gauche, j'ai un risque de déraillement qui est plus grand que si j'ai des défauts de nivellement ou de dressage qui vont plus gêner le confort. Donc, du coup, on a souhaité essayer de mieux répartir ces erreurs sur les quatre défauts. On aurait pu faire un générateur par type de sortie qu'on va étudier, mais on n'a pas fait ce choix ici. Donc, ici, maintenant, pour essayer d'améliorer cette différence d'erreur qu'on a entre les différents défauts, on a proposé de faire une double pondération. Donc la première, ça a été de dire, je ne vais pas regarder mon champ X des défauts, mais je vais le pondérer avec un paramètre O pour que je puisse regarder de manière un petit peu plus similaire mes quatre défauts. Et donc, j'introduis un nouveau processus Y qui est un processus pondéré. Donc, la première ligne, ça correspond à ce que j'avais avant. Si je pondère de la même manière les quatre défauts, donc j'ai des erreurs qui sont plus grandes sur mon défaut de gauche. Par contre, si je cherche le paramètre O qui me permet de mieux répartir les erreurs sur les quatre défauts, je vois qu'en effet, ça me permet de bien répartir et d'avoir des erreurs qui sont similaires sur les quatre défauts. Puis la deuxième chose, ça a été de dire que certes, mon champ il est non stationnaire, mais avec l'estimateur de covariance sous hypothèse de stationarité, je peux me permettre d'avoir des erreurs qui sont plus faibles. Et donc la deuxième pondération qui a été faite, ça a été de pondérer l'estimateur empirique avec l'estimateur de covariance sous hypothèse de stationarité. Donc là, pareil, si je reprends avec une pondération identique sur les quatre défauts et que je cherche mon alpha ici optimum, je vois que je peux, par rapport à la première ligne, réduire les erreurs. Et que si, en effet, j'utilise la double pondération, donc à la fois le O optimal et le alpha optimal, je peux à la fois avoir des erreurs qui sont similaires sur les quatre défauts et puis des erreurs qui sont réduites par rapport à ce que j'avais au départ. Donc, on a fait du Karen-Love qui a été doublement pondéré pour essayer d'améliorer les erreurs. Et la dernière chose, c'est de caractériser la loi de mes poids, donc des coefficients de projection. Donc j'ai choisi encore une fois une base de 2000 vecteurs propres. Donc on a 2000 coefficients de projection. Et donc caractériser la loi de X, ça revient à caractériser la loi de ces coefficients de projection. Et donc on veut caractériser C à partir de ces mu-réalisations. Et pour ça, du coup, on fait une autre projection, une projection statistique, et on identifie en direct les poids ici. Donc, on fait une projection sur des polynômes d'Hermite, ici, qui sont aléatoires, et je viens chercher les poids Y qui me permettent de maximiser la vraisemblance des réalisations de C vis-à-vis de la loi de Y psi, donc sous la contrainte de la covariance ici. Donc ensuite, pour essayer de regarder à quoi ressemblait, donc de qualifier ce générateur, on a fait des comparaisons à la fois au niveau de la géométrie et des comparaisons sur la réponse du train, puisque ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'utiliser ce générateur pour regarder les réponses dynamiques du train. Donc on a fait deux types de comparaisons. On a regardé le contenu statistique avec des dépassements de seuil et aussi les contenus spectraux. Alors ici, je ne montre les résultats que pour la réponse du signal. Donc on a fait des simulations à partir des mesures. Ça va être tout ce qui est en très plein, et à partir de voies générées, c'est tout ce qui est entré en pointillé. Ici, donc, on représente les dépassements de seuil pour quatre critères, des critères de déraillement sur une roue droite, sur une roue gauche, sur une voiture de passagers et sur une motrice. Et puis, on voit que sur l'ensemble de ces critères, les pointillés et les courbes en plein sont très proches. Et donc, on a au niveau de cette réponse un générateur qui semble tout à fait pertinent. Et ici, on a les réponses spectrales et on voit que là encore, le générateur permet d'avoir des réponses qui sont tout à fait pertinentes par rapport à la mesure qui avait été faite. Donc ensuite, je vais montrer deux exemples de ce qu'on pourrait faire avec un générateur comme ça. Donc là, on a dit, on a trois trains à grande vitesse, deux qu'on connaît bien, un qu'on connaît moins bien, et on essaye de regarder comment ces trois trains se comportent sur un ensemble de voies. Donc encore une fois, le fait d'avoir ce simulateur peut nous permettre de faire des milliers, des millions de configurations qu'on ne pourrait pas auxquels on ne pourrait pas accéder expérimentalement. Et on voit que finalement, il n'y a pas de train idéal, hein. Il y a des trains qui se comportent. Ici, j'ai un critère en confort, donc là, c'est une accélération latérale en caisse. Ici, j'ai un critère toujours le même de déraillement. Ce sont les efforts latéraux sur les efforts verticaux. Donc quand les efforts latéraux commencent à augmenter trop, on a suffisamment d'efforts pour faire dérailler le train, le faire sortir de la voie. Et puis un critère d'endommagement. Et on voit qu'il y a des trains qui se comportent de manière similaire, ces deux-là typiquement se comportent de manière similaire au niveau de confort, mais vont avoir un endommagement qui est très différent. Puis on a un train là qui potentiellement aurait un endommagement particulier sur certaines zones qu'il faudrait peut-être du coup, proposer de maintenir ou surveiller de manière particulière ces zones-là. Un deuxième exemple, ça a été de dire, alors c'est pas du tout à la main d'ensemble, mais ça serait de dire, qu'est-ce qui se passerait si on voulait rouler plus vite, donc passer de 320 à 320 fois 1,1, 1,2, 1,3. Et donc, donc on regarde ce qui se passe, donc on voit qu'effectivement, mes trois critères vont se dégrader, hein, plus je vais vite, plus le confort va se dégrader, plus le déraillement, plus on va avoir de risques de sécurité, et plus l'usure va augmenter. Mais on voit aussi les deux dernières, ici, les deux derniers signaux, c'est quand on a adapté le dévers, hein, donc le dévers donc, est toujours bien sûr adapté à la vitesse du train. Quand on adapte le dévers, ça nous permet de limiter quand même très fortement les risques, d'améliorer le confort et d'améliorer l'endommagement, mais ça peut nous donner une idée de comment se comporteraient les trains si on devait changer ses vitesses avant même de faire les travaux. Voilà, donc pour résumer un petit peu cette première partie, donc on a mis en place un générateur de géométrie de la voie et on a mis en place deux types de réduction de la complexité. On a mis en place une projection spatiale par Korolev qui a été mise à l'échelle et puis on a fait une projection sur base aléatoire en utilisant des chaos inverses. Et puis du coup, on a montré deux applications. Mais donc l'idée, c'est que vraiment, utiliser un générateur comme ça pourrait, dans d'autres applications, essayer de qualifier la robustesse du système. Je vais passer maintenant à un deuxième type de travaux qui est vraiment la surveillance du réseau, donc de la géométrie de la voie et du train. Alors, on l'a déjà dit, hein, le système véhicule-voie, c'est un système qui est très fortement couplé. Et quand on met des capteurs dans le train, eh ben, on vient vraiment caractériser l'ensemble du système. Donc on vient caractériser à la fois la voie et le véhicule. Et dissocier les deux, c'est pas facile. C'est pas facile. Et du coup, on aimerait bien, avec la simulation, essayer d'interpréter au mieux les mesures et essayer de discriminer ce qui relève du train et ce qui relève de la voie. Alors du coup, je vais encore travailler sur mon modèle dynamique. Pour la surveillance de la voie, de mes réponses dynamiques, donc d'accélération, je vais essayer de retrouver la géométrie de la voie. Et puis, dans un deuxième temps, je vais essayer, au contraire, de retrouver plutôt les paramètres du train. Même si quand je mesure les deux qui évoluent en même temps. Voilà. Donc du coup, les capteurs qu'on a aujourd'hui dans certains trains, ce sont des accéléromètres verticaux, latéraux, qui sont mis ici dans les boîtes d'essieux, éventuellement sur le bogie, éventuellement en caisse. Donc on a des rames commerciales qui sont équipées et du coup qui nous permettent une mesure qui est extrêmement fréquente, qui est peu coûteuse et qui est tout à fait représentative. Même le jour où le train est extrêmement plein, on peut avoir des mesures. Même le jour où il fait extrêmement chaud, si le train circule, on peut avoir des mesures. Alors la première étape, c'est de dire, on va essayer de reconstruire les défauts verticaux. Oups, pardon. Alors, les défauts verticaux, on voit que finalement, l'essieu, il reste toujours collé au rail. Donc, une double intégration des accélérations en boîte d'essieu permet de revenir de manière très précise, on le voit sur l'image de droite, au défaut de la géométrie. Donc, en bleu, on a le vrai défaut, en vert, on a sa reconstruction. Et donc, on voit qu'avec une double intégration, on peut facilement revenir à ces défauts. Par contre, en latéral, il y a un jeu dans la voie. Il y a un jeu dans la voie pour que les essieux puissent bien s'inscrire, pour qu'on ait, qu'on ait une bonne stabilité. Et comme il y a un jeu dans la voie, ben, on voit assez vite que la trajectoire des essieux, elle va être très différente de la position des rails. Et donc, une double intégration, ça ne va pas me suffire pour savoir où sont les rails par rapport aux essieux. Donc là, on a une autre simulation. Maintenant, on a mis les vrais défauts mesurés aux rails. Donc, on voit que les rails bougent, hein, ils se lèvent l'un par rapport à l'autre, ils se déplacent latéralement. Et puis, ben, on voit que sur ces... Donc, en rouge, ici, là, j'ai le défaut de dressage. En vert, j'ai le défaut de gauche. Donc là, on a vu, on avait un gros défaut de dressage tout à l'heure. Et on voit que ben, la réponse dynamique de l'essieu, elle est vraiment très complexe. J'ai parfois du bicontact, j'ai le contact qui saute de la table au boudin. On voit qu'effectivement, le lien entre le rail... et l'essieu, elle est très complexe. Et donc, quand je vais mesurer des accélérations, ben, je vais avoir plusieurs défis. Le premier, ça va être d'essayer de comprendre ce lien entre le rail et la roue, sachant que c'est extrêmement non linéaire. En plus, les capteurs, ils sont sur les boîtes d'essieu. Donc, les capteurs, ils tournent avec la boîte d'essieu. Donc, comme ils changent d'orientation, les capteurs ne mesurent plus des accélérations verticales ou des accélérations latérales. Et puis, ces mesures, elles sont extrêmement bruitées parce qu'elles vont comprendre du bruit, mais aussi tout un tas d'effets quasi-statiques, les effets centrifuges, les accélérations, les freinages du train, etc. Du coup, on a deux types de problématiques. Le premier, c'est avec l'équipement qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et le deuxième, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas proposer de sélectionner d'autres grandeurs qu'on pourrait mesurer pour améliorer les reconstructions ? Donc, du coup, pour la reconstruction de ce dressage, les informations qu'on a en offline, ça va être un ensemble du triplé tracé, donc le dévers, courbure, horizontale, altitude, les quatre défauts de géométrie dont on a déjà parlé, et les réactions du train. Donc, essentiellement ici, des accélérations verticales, latérales, sur boîte d'essieu, bogie et caisse. Et puis pour le traitement online, on n'aura plus les différents défauts ici, là, on aura uniquement des réactions dans le train et la géométrie du tracé. Alors, comme on a vu que les défauts verticaux étaient très bien reconstruits, on va supposer qu'on les connaît. On va dire, eux, je sais bien les reconstruire, donc eux vont faire partie des choses que je connais aussi. Et puis, le défaut d'écartement, on a vu que finalement, la réaction sur ce défaut d'écartement, elle n'était pas très forte. Hein. Le train ne réagit pas beaucoup au défaut d'écartement. Et puis, finalement, un défaut d'écartement, c'est plus facile à capter qu'un défaut latéral sans avoir de référence. Donc, on a dit que pour l'instant, on considérait qu'on ne le connaissait pas et qu'il était égal à zéro. Et puis là, du coup, on va essayer de construire un tronçon de dressage qui est de 300 mètres. Et donc là, pareil, on va essayer d'adopter une approche progressive de réduction de la complexité. D'abord, on va faire une reconstruction qui est uniquement linéaire, par noyau. Donc, on va juste faire une régression par processus gaussien. Puis ensuite, on va extraire une base réduite pour ce qui reste, donc pour l'erreur de construction. Et à la fin, on va faire du coup, une optimisation black box pour approximer les différents coefficients de projection sur cette base. Alors du coup, maintenant, je vais toujours appeler X2 donc le défaut de dressage, mais qui est discrétisé sur ces 300 mètres. Et dans Y, je n'ai pas que la réaction, j'ai tout ce que je connais, donc les accélérations, le tracé et aussi les défauts X1 et X2 que je sais reconstruire. Et je vais supposer que X2Y, c'est un vecteur gaussien aléatoire. Et du coup, de moyenne qui est mu2, μy et de covariance qui s'écrit comme ça. Et ces moments, on peut les calculer à partir des données labellisées qu'on a. Et ensuite, par conditionnement gaussien, je vais déduire mon défaut de dressage sachant que sur ce tronçon, j'ai mesuré telle réaction, j'ai mesuré la courbure et je connais mes défauts X1, X2. Et du coup, ce X2 sachant les observations, c'est pareil, une loi gaussienne avec cette moyenne et cette matrice de covariance. Et pour mon approximation linéaire, je vais utiliser cette moyenne-là. Alors le Y, comme on a dit, comme le train ne réagit pas tout de suite, en fait, ma réaction du train, elle est plus longue ou bien elle est déphasée par rapport au tronçon que je vais regarder. Parce qu'encore une fois, le train ne réagit pas tout de suite, il va réagir après. Donc quelque part, ça ne sert à rien d'avoir la... En tout cas, ce n'est pas suffisant d'avoir la réaction uniquement au-dessus du tronçon. Voilà, donc là, j'ai repris la même expression. Et puis, ben, cette matrice-là, cette matrice de covariance, elle va caractériser... les perturbations, enfin l'écart que j'ai, l'erreur de reconstruction que j'ai, donc l'écart à la moyenne. Et donc je vais utiliser cette matrice de covariance pour perturber la partie linéaire que j'ai identifiée. Donc X2, je vais l'écrire comme la partie linéaire, la moyenne de mon champ, plus des projections sur A1, sur les vecteurs propres de la base associés à cette matrice-là, et puis le reste, donc le complémentaire que je ne vais pas regarder. Et puis les poids, xi1 ici, je cherche l'xi1 qui minimise la réponse que j'ai observée par rapport à la réponse simulée sur ces géométries, cette géométrie linéaire, plus la géométrie que j'ai perturbée avec cet élément-là. Voilà, donc ici, je vais montrer les résultats. Donc ici, d'abord, j'ai la convergence, donc pour calculer les poids, là que j'ai montré tout à l'heure, on a utilisé un algorithme génétique du CMES. Donc ici, en couleur, j'ai les différentes générations et je représente en abscisse l'écart qu'on a, non pardon, en ordonnée d'abord, l'écart que j'ai entre les défauts, donc défaut initial moins défaut identifié, et en abscisse ici, là, j'ai la différence entre les réactions, réactions mesurées et réactions simulées sur ces géométries-là. Donc chaque point ici, ça représente une simulation, et donc on voit qu'effectivement, on peut progressivement réduire beaucoup l'écart au niveau de la dynamique, et un petit peu moins, mais on arrive quand même à réduire aussi l'écart entre les défauts. Donc voici ici les résultats des défauts. Donc en bleu, j'ai mon défaut linéaire. En rouge, j'ai le vrai défaut que je recherche. Et en vert, j'ai le défaut qui a été identifié. Donc on voit que la partie linéaire, elle capte déjà les tendances principales, qu'effectivement, la reconstruction ici en dimension 10 permet de se rapprocher du vrai défaut. Mais on voit qu'il reste quand même un écart qui est relativement important entre eux, le vrai défaut en rouge, et en fait le noir, c'est le mieux que j'aurais pu avoir avec cette réponse dynamique. Pardon. Et donc, pour arriver plus proche de ces défauts rouges, il va falloir qu'on rajoute, qu'on trouve d'autres informations pour pouvoir l'identifier. Ce qu'on a dans la mesure dynamique qu'on utilise aujourd'hui n'est pas suffisant pour reconstruire mieux ce défaut de dressage. Et donc, c'est l'objet des deuxièmes types de travaux. Donc on a dit, cette première approche, elle ne nous permet pas d'arriver aussi près qu'on veut au défaut, et puis surtout, elle est assez gourmande, donc on a eu une deuxième approche en parallèle, qui a été de développer du coup, des modèles physiques semi-analytiques pour essayer d'accélérer ces reconstructions. Donc on a introduit différents modèles de contact, simplifiés, linéaires, non-linéaires, monocontact, bicontact. Et puis, on a essayé de réécrire ce défaut de dressage en fonction des autres variables cinématiques du problème qu'on peut calculer. Donc, je vais montrer là le modèle qu'on a utilisé. Donc, ici, c'est un modèle qui est simplifié vraiment. Donc, on a les rails, deux essieux, une caisse qui sont reliés avec des suspensions très simplifiées. Et on a encore une fois différentes complexités de modèles de contact. Et du coup, on a dit... Notre dressage, on va de nouveau l'identifier comme une partie linéaire et une partie non linéaire. Et à chaque fois, on va écrire cette partie non linéaire avec des noyaux de convolution qui sont convolués avec en bleu les réponses dynamiques qui sont intéressantes, donc la courbure. Ici, on a un angle de rotation. Ici, on a l'accélération en caisse. Enfin, là, du coup, on a mis des déplacements parce qu'on les avait par la simulation et le déplacement du premier essieu. Mais donc l'étudiant a fait plusieurs essais pour voir quelles étaient les différentes grandeurs dynamiques auxquelles on pourrait avoir accès et qui nous permettraient d'enrichir de bien représenter ce défaut. Et après, il y a toute une partie non linéaire ici, qui est, du coup, cette partie non linéaire, elle dépend de choses qu'on ne connaît pas initialement, et du coup, qui a été identifiée par méthode point fixe. Donc voici les différents noyaux qui ont été identifiés, encore une fois, sur une base de données qui ont été étiquetées. Et voilà les reconstructions. Donc ici, on est très simplifié, hein, on a un modèle simplifié, on connaît tous les paramètres, il n'y a pas d'incertitude. Mais on voit qu'effectivement, bah, avec ces modèles simplifiés, on peut tout à fait reconstruire les défauts. Alors on peut remarquer aussi que c'est en général très bien reconstruit, sauf dans certaines zones. Et ces zones-là, elles correspondent justement là où s'exprime la non-linéarité, là où je rentre en contact avec le boudin, donc où le contact est plus non-linéaire. Donc ça, c'est ce qui se passe quand, pour le modèle direct et le modèle indirect, je connais tous les paramètres. Dans la vraie vie, je ne connais pas tous les paramètres. Donc ici, à droite, on a identifié à partir des simulations qui ont été faites avec des paramètres différents de ceux qu'on a utilisés pour identifier les noyaux. Et on voit que finalement, la réponse, elle est moins bonne, bien sûr, mais elle n'est pas si mauvaise. Et que du coup, cette méthode, elle pourrait être robuste aux incertitudes qu'on a sur le système.
C'est quoi le noir ?
Le noir, du coup, c'est l'erreur.
C'est l'erreur.
Oui, pardon.
Le rouge et le bleu.
Exactement, c'est l'erreur entre le rouge et le bleu, tout à fait.
Elle est multipliée par quelque chose.
Alors, oui, elle a été effectivement. Mais enfin, non, là, on voit qu'elle est vraiment très grande, l'erreur. Hein. Le rouge, il est là. Donc là, c'est vraiment, typiquement, on a un choc, là. Et du coup, le modèle linéaire, il ne permet pas de retrouver ce qui se passe. Par contre, si on rajoute la partie non linéaire, on voit là que du coup, les erreurs sont beaucoup plus faibles et que malgré tout, on reste robuste. Donc encore une fois, c'est des développements qu'on est en train de faire pour essayer de comprendre. Donc là, typiquement, on commence à voir que équiper plusieurs essieux, ça pourrait apporter des informations très intéressantes. Et on voit aussi que si on pouvait capter, alors ça serait fantastique, si on pouvait capter les angles de lacets de l'essieu par rapport aux bougies, ça apporterait beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, c'est des capteurs qui sont assez gros, qui n'ont pas forcément elles ne sont pas assez précises, mais peut-être que si demain il y avait des capteurs peut-être quantiques qui seraient très précis, ça nous permettrait de reconstruire de manière très précise le dressage. Maintenant, je vais passer à la deuxième application, qui est l'utilisation de ces mêmes signaux pour le télédiagnostic des suspensions. Donc aujourd'hui, les suspensions, il y en a plein de types. Hein. Ici, c'est des suspensions primaires très simples, on a des ressorts, des amortisseurs. Aujourd'hui, ces éléments de suspension, ils sont maintenus uniquement sur des critères en âge ou en kilomètres. Donc c'est très sécuritaire, mais ça veut aussi dire que finalement, quand on les change, on n'a pas trop d'informations sur leur état et que peut-être on en change, enfin sans doute, on en change tout un tas qui sont en très bon état. Donc l'idée, ça serait d'essayer de développer des solutions qui nous permettraient de passer de quelque chose de préventif à quelque chose éventuellement plus proche du besoin. Donc là encore, les informations qu'on a disponibles, ce sont des accélérations au niveau... Là, on va surtout utiliser bogie et caisse des informations régulières sur des mesures régulières de la géométrie de la voie. Et on a un train, un modèle de train multicore neuf. Alors la difficulté, on en a déjà parlé, c'est que la réponse du train, si j'ai une accélération latérale forte, ça peut être un défaut de dressage, ça peut être les amortisseurs antilacés qui commencent à être fatigués, ou ça peut être même un croisement de train. Et du coup, l'idée, ça serait de dire, j'ai mesuré ça, mais moi je veux savoir si c'est parce que j'ai croisé un train, si c'est parce que j'ai eu un gros défaut, ou si c'est parce que j'ai tel amortisseur ou tel autre élément qui est en train de s'endommager. Et ce qui est difficile aussi, c'est que sur la même réponse dynamique qu'on va observer, il y a plusieurs éléments de suspension qui vont jouer. J'ai un ensemble d'éléments de suspension qui vont jouer sur cette réponse. Et donc, on a pensé que la simulation, elle était complètement nécessaire. Donc encore une fois, là, je résous ce deuxième problème inverse. De la réponse Y, je veux déterminer les paramètres W de mon modèle. Donc on a toujours ce modèle qui est relativement coûteux, hein, c'est pas des éléments finis, mais c'est quand même relativement coûteux. On a des entrées et des sorties qui sont dans très grandes dimensions, et puis on est sous incertitude de mesures et de modèles. Donc le choix qui a été fait, ça a été de dire, d'une part, j'ai mes excitations que je mesure régulièrement, mon système réel ici qui mesure des accélérations mesurées, et puis de l'autre, j'ai un modèle... qui donne des réponses, que je viens bruiter pour ajouter toutes les incertitudes que j'ai. Et puis, du coup, je vais comparer avec une fonction de vraisemblance la vraisemblance de cette mesure par rapport à la réponse du modèle. Et puis, donc, je vais comparer ça et je vais calculer une distribution postérieure de mes paramètres. Alors la difficulté ici, c'est que, donc on l'a dit, les coûts de calcul est relativement élevé, donc pour calculer la vraisemblance, je vais avoir un coût élevé. Puis comme on a des grandes dimensions pour les entrées et les sorties de mon modèle, c'est pas forcément facile de faire une métamodélisation du modèle physique, et donc on a fait le choix de recourir à un métamodèle de la vraisemblance, donc par processus gaussien. Mais du coup... on la calcule avec une incertitude, cette longue ascendance, et du coup, il a fallu réécrire le problème pour l'intégrer, cette incertitude, dans l'approche bayésienne. Alors là, on a fait un POC sur des données historiques, donc on avait tout un tas de mesures sur un train, et on a vu que sur un beau J, en effet, les observations, encore une fois, on ne les connaît pas, on n'a pas d'idée de l'état des suspensions, on voyait que notre problème inverse donnait des évolutions sur certains paramètres d'un beau J, sur certains éléments de suspension d'un beau J. Donc ici, on a un amortisseur vertical, et ici, on a la suspension pneumatique, donc c'est l'espèce de gros pneu que vous voyez quand vous passez devant les trains. Et donc on voit effectivement qu'il y a vraiment deux comportements, ici, c'est assez bas, puis voilà, il y a quelque chose qui se passe, on repasse au nominal et puis ça se redégrade assez vite. Et là, bah, c'était pas très bon, mais après, bah, c'est plutôt meilleur. Et en fait, ce qui se passe, là, la grosse barre noire, ça correspond à une maintenance. Donc effectivement, il y a une maintenance qui a été réalisée, on ne sait pas exactement pour quelle raison, mais en tout cas, cette approche avait permis de montrer que, bah, qu'il y avait des éléments qui commençaient doucement à s'éloigner de leur caractéristiques initiales. Et donc, ces travaux pourraient permettre de proposer des outils pour surveiller de manière un petit peu plus... Enfin, de surveiller plus régulièrement les suspensions de manière pas trop intrusive. Voilà, donc pour résumer cette seconde partie, donc on a mis en place des méthodes de surveillance et de l'infrastructure et du matériel roulant à partir de capteurs qui sont embarqués. Et donc, on a vu que la simulation, elle est vraiment nécessaire. Alors, il y a quand même des travaux qui essayent d'utiliser des approches pures données, mais en fait, c'est vraiment compliqué à capter des informations suffisamment fines. Et puis, c'est très gourmand. Et du coup, pour l'instant, les approches de données ne sont pas suffisantes. Donc là, on a montré que la simulation, pour discriminer l'endommagement de l'infrastructure et du matériel roulant est intéressante. Et puis, on a fait des analyses de sensibilité, des projections par ACP pour réduire les espaces de recherche. Et enfin, une métamodisation de la fonction coût qui était intéressante pour réduire et pour que les coûts ne soient pas trop importants. Alors, on a montré aujourd'hui quelques applications, mais il y en a d'autres. Typiquement, les sols, les ouvrages en terre sont des éléments, ou les rails, sont tous des éléments qui sont sensibles à la réaction dynamique et qu'on essaye de traiter par des approches similaires pour essayer de voir comment ils se dégradent et transformer progressivement leur surveillance, leur maintenance. Donc je vais maintenant arriver aux conclusions de cet exposé. Donc je voudrais rappeler les éléments principaux de ces exposés. Tout d'abord, les simulations et les mesures apportent des informations qui sont complètement complémentaires. C'est vraiment riche de pouvoir utiliser les deux de manière intégrée. La simulation, on a vu qu'on pouvait l'utiliser pour essayer d'interpoler. Alors extrapoler, c'est toujours dangereux, puisqu'il faut être sûr que nos modèles restent valables. Et puis, je l'ai peu dit, mais quand on a fait l'identification de ces générateurs de voix, on a travaillé sur des voix qui étaient existantes. Et ces voix, d'une part, il n'y a pas les gros défauts, parce que les défauts, ils sont maintenus. Aujourd'hui, on maintient sur les amplitudes. Donc, si demain, on fait un autre type de maintenance, on aura d'autres types de défauts qui vont arriver. Et puis, ça, pour le coup, je l'ai bien dit, c'est vraiment la réaction des trains qui va imposer ces défauts sur la voix et inversement. Et du coup, dans l'idéal, ça serait bien d'avoir des modèles qui s'adaptent, même qui peuvent prévoir les évolutions sur ce qui se passe avec les évolutions du système. Et puis, on a aussi vu que pour extraire l'information des mesures du système, la simulation nous semblait indispensable aujourd'hui. Peut-être que demain, les approches pure data seront pertinentes, mais aujourd'hui, le nombre d'informations n'est pas non plus gigantesque. Et du coup, les approches de données pures sont peut-être plus complexes à mettre en place. Et donc, pour répondre à toutes ces problématiques, la réduction de la complexité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas parler des aspects énergétiques, même si on le comprend bien, c'est vraiment un aspect primordial aujourd'hui parce que le système ferroviaire est un très 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 gros consommateur d'énergie. Et on voit bien encore une fois que les deux sont complètement liés. Si je n'ai pas assez de puissance à la caténaire, mon conducteur ne peut pas accélérer. Quand j'accélère, quand je freine, j'ai un impact très important sur la dynamique latérale, la dynamique longitudinale. Et donc on essaye aussi de travailler à proposer des trajectoires, donc des commandes ou des trajectoires de vitesse qui permettent de limiter la consommation énergétique. Alors ça, c'est un problème qui est encore plus compliqué. Parce que dès la calibration des modèles, donc notamment du modèle énergétique, on n'a pas toutes les informations. Il nous manque les informations de la commande, où elle est très mal connue. En plus, on a dit, hein, c'est des sauts, donc c'est des choses qui apportent dans les équations dynamiques des choses irrégulières, donc c'est assez compliqué à prendre en compte. Donc déjà, il faut qu'on identifie les paramètres avec des données manquantes. Et puis les trajectoires de vitesse, elles sont extrêmement contraintes. On a des vitesses limites, bien sûr, il ne faut pas que le train il accélère plus que tant. Mais on a aussi des contraintes qui viennent de la physique. Je ne peux pas accélérer comme je veux puisque j'ai des limitations de la chaîne de traction, j'ai des limitations de l'adhérence. Cette adhérence, elle change avec la météo. Je ne peux pas freiner comme je veux parce que j'ai des limites sur les systèmes de freinage, que l'adhérence, elle, peut être trop faible. Donc j'ai des contraintes qui sont non linéaires à ce niveau-là. Et j'ai toutes les contraintes de l'exploitation. Donc le train, il doit passer à tel moment, à tel endroit, parce que sinon, l'autre train qui vient d'une autre voie, il ne va pas pouvoir passer. Ou bien, ici, j'impose un point de passage sans dire la vitesse, où ce train-là, au contraire, doit s'arrêter en gare. Et du coup, toutes ces contraintes, elles sont difficiles à implémenter, notamment les contraintes non linéaires. Donc, on a essayé de développer des approches pour conditionner les champs pour pouvoir construire des commandes qui sont réalistes. Et puis après, ce qu'on souhaiterait, c'est d'optimiser, donc faire d'abord un travail en offline pour construire un ensemble de trajectoires avec les informations qu'on a, donc la météo à une heure, le nombre de passagers approximatifs qu'on aura dans le train. Et après, en online, on aimerait essayer de voir si on ne peut pas adapter cette trajectoire en temps réel aux conditions de circulation qu'on a rencontrées. Donc effectivement, le vent qu'il y a eu, est-ce que mon adhérence était bonne ou pas? Mais ça peut aussi être, j'ai eu un retard, ou il a fallu que je ralentisse un petit peu pour telle raison. Et du coup, voir comment est-ce qu'on pourrait proposer au conducteur une trajectoire qui serait moins gourmande. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr. Les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.